RCF.
En 1982, quelques élèves d'une classe de 5e ont réalisé, au cours de séances de catéchisme, une icône du Christ dans un collège du diocèse d'Amiens. Jusque-là, rien de très exceptionnel. Ce qui l'est plus, c'est le rayonnement de cette icône, qui a fini par dépasser ses créateurs et par être diffusée aux quatre coins du monde. Blandine Dairon, bonjour.
Bonjour.
Ce visage du Christ vous accompagne depuis des années et il a été le point de départ d'une expérience spirituelle que vous racontez dans un livre paru chez Salvator. Ce livre s'intitule « Ils m'ont révélé ton visage ». Vous êtes mariée, vous êtes journaliste indépendante, vous êtes engagée dans différents lieux d'église comme la communauté Vie chrétienne ou l'Arche de Jean Vanier. Pour commencer, Blandine Dairon, j'aimerais que vous nous décriviez cette icône. Alors nous, on l'a sous les yeux là, les auditeurs pourront la voir sur Internet, sur le site de RCF. Mais décrivez-nous cette image.
Donc ce visage du Christ, il est formé de centaines et de centaines de petits visages collés sur un carton. Ces petits visages sont en couleur et en noir et blanc. Il est formé de visages de personnes connues, de personnes inconnues. On peut reconnaître par exemple facilement le pape Jean-Paul II ou quelques artistes ou personnes politiques. Il est formé de visages d'enfants, de personnes de tous âges. L'idée, c'est de montrer l'universalité, en fait, de tous ces visages.
Vous l'avez dit, il est entouré de visages en noir et blanc et ceux qui sont au centre, évidemment, en couleur.
Oui.
Quand on le met à distance, représente le visage du Christ, mais pas n'importe quel visage.
Oui, c'est un visage qui a les yeux fermés, qui porte une couronne d'épines et des signes aussi de la passion avec un petit peu de ton rouge qui donne le sentiment de cette souffrance du sang. Pour moi, c'est le visage de Jésus ressuscité. Puisqu'il apparaît sur nos visages aujourd'hui, c'est grâce à nous qu'il peut apparaître, mais c'est aussi le visage du Christ qui a vécu sa passion, puisque bien sûr il y a cette couronne d'épines et ce visage fermé qui peut être à la fois paisible, mais aussi douloureux.
À quel moment avez-vous vu ce visage pour la première fois? Cette icône, vous l'avez eu entre les mains quand?
Il y a longtemps. Elle m'a été offerte en 1985, donc juste après la Toussaint 85. Par une religieuse que j'avais rencontrée à l'abbaye de Tamiers. Donc à l'abbaye de Tamiers, pendant la semaine de Toussaint, j'ai vécu une expérience fondatrice pour moi, une semaine de conversion à une foi adulte. J'étais croyante, mais vraiment le Seigneur m'a parlé par l'intermédiaire de plein de personnes, mais aussi dans la prière, le silence, la joie des moines, enfin, et aussi cette sœur que j'ai rencontrée. Donc elle m'a offert ce visage, mais alors il était en version une petite taille, quoi, un tout petit marque-page qui m'a tout de suite touchée.
Qu'est-ce qui vous a touchée?
Ce qui m'a touchée, ce sont ces visages, tous ces visages qui formaient celui du Seigneur. Et je me suis dit, on ne peut pas faire l'abstraction de la relation aux autres lorsque l'on est chrétien. Ça m'a frappée tout de suite. Bien sûr, je n'ai pas réfléchi, je n'ai pas creusé comme j'ai pu le faire pour le livre là, tant d'années après. Mais sur le moment, je pense que ce qui m'a touchée, ce sont tous ces visages et cette douceur, ce visage aux yeux fermés qui me respectait. C'était pas un regard intrusif. Et puis, à la fois cette paix, l'expression aussi peut-être de la souffrance qui pouvait rejoindre aussi mon propre chemin.
À quel moment avez-vous commencé à vous intéresser à l'origine de cette icône? Comme vous l'avez dit, des années plus tard, et qui a donné lieu donc à la rédaction de ce livre, qui est en quelque sorte au début une véritable enquête.
Oui, c'est très récent, hein, le désir que j'ai eu de découvrir, mais qui a fait ce visage? Pourquoi ils ont fait ce visage? Est-ce que c'est juste théologiquement de faire ce visage? Ça date, bon, c'est récent, disons, décembre 2010 précisément.
Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là?
Il s'est passé, ce que je ne raconte pas dans le livre, plusieurs événements. Notamment la découverte d'un film de l'Arche qui s'appelle L'épreuve des mots. Le premier, L'épreuve des mots. Et j'ai été très touchée par ce film. C'est un petit film de 26 minutes, un documentaire de l'Arche, qui est une série d'interviews de personnes avec handicap mental sur des tas de questions, la vie, la mort, l'argent, l'amitié, le handicap. Et j'ai été touchée par ces visages, par la pertinence des réponses, par la beauté de ce que disaient ces personnes, par le respect de la journaliste qui les interroge. Et ma prière du lendemain a été habitée par tous ces visages. Et je me suis tournée un peu physiquement, j'ai regardé ce visage que nous avons à la maison, ce petit visage que j'ai mis en fait depuis toutes ces années sous un petit cadre. Et j'ai vu symboliquement ces visages des personnes de l'Arche se poser sur ce petit visage. Et je me suis dit, mais mes amis de l'Arche, ces personnes du film de l'Arche sont le visage du Christ. Dans ce qu'elles ont dit, ça m'a tellement touchée. Et tout d'un coup, c'est comme si je recevais de nouveau ce petit visage comme un cadeau. Mes yeux se sont un peu dessillés et je me suis dit, mais c'est magnifique ce petit visage que j'ai depuis 25 ans. Mais qui a fait ce visage? J'ai envie de leur rendre hommage, j'ai envie d'aller les retrouver et peut-être aussi il y a quelque chose à écrire pour essayer de comprendre si
démarche.
C'est juste de faire ce visage. De faire un visage du Christ avec des centaines de visages, c'est quand même, moi ça m'a, tout d'un coup ça m'a un peu réveillée. Je me suis dit, mais est-ce que c'est juste de faire une chose pareille?
Juste, c'est-à-dire?
Juste dans le sens théologiquement juste. Est-ce que nous on peut oser dessiner un visage du Christ avec plein de visages? C'est quand même, moi,
est-ce que nous sommes le visage du Christ finalement?
Ou au moins
on
participe de son visage, je veux dire, parce qu'on n'est pas, il n'y a pas un seul visage pour représenter son visage. Là ils sont très très nombreux, c'est l'universalité, c'est tous les êtres
mosaïque.
Humains. Voilà, c'est une mosaïque.
Alors, vous parlez d'icône. L'icône, c'est pas n'importe quoi. Il y a des techniques d'icône. On écrit une icône, on ne la peint pas. C'est très codé, c'est très significatif. C'est toute une tradition. Est-ce qu'on peut dire qu'il s'agit là d'une icône?
Alors, moi, peut-être que le terme est un peu mal approprié. Dans le livre, je dis bien que c'est pas une icône au sens strict, bien sûr. Mais parce que moi, j'ai pu personnellement prier avec ce visage et d'autres l'ont pu aussi. Et qu'on peut prier devant une icône et qu'une icône reflète aussi la vie dans l'esprit de celui qui l'a créé. La prière de ces enfants, de ce couple, du jeune prêtre qui était présent, rayonne, je pense, de ce visage.
Qui ont fait?
Voilà, de ceux qui ont participé à la création en 82.
On en parle dans un instant. Au visage de Jésus-Christ, c'est le titre de ce chant, Blandine Daéron, et évidemment qui est en consonance avec le thème de votre livre. C'est un livre qui s'intitule « Ils m'ont révélé ton visage ». Il est publié chez Salvator. C'est un livre que vous avez écrit pour rendre hommage au créateur donc, de ce visage du Christ hein, qu'on évoque depuis tout à l'heure, réalisé sur un carton. Avec des centaines et des centaines de petits visages, c'est un collage, ce Christ donc, sur lequel on voit la couronne d'épines, des yeux clos, un visage à la fois de la passion et en même temps, vous le disiez, un visage très paisible qui vous accompagne depuis des années. Vous pouvez nous donner les dimensions de l'original?
Alors les dimensions de l'original, je les ai découvertes en mois de juin à Péronne, donc c'est 56 cm exactement, je crois, sur 110. C'est très grand. J'ai vu l'original en juin dernier et il est très saisissant. Les photos, les couleurs ont passé. Alors c'est très étonnant, les couleurs du visage du Seigneur sont devenues un peu bleues et puis tout autour c'est devenu jaune. C'est comme si c'était un peu le négatif de l'original, mais il est très saisissant, très apaisant et très beau. Il a été gardé dans un grenier.
Donc vous avez cette image, vous la connaissez depuis 1985,
oui.
Et c'est tout récemment que vous avez eu envie d'en retrouver l'origine, d'en retrouver les créateurs. Ça vous a conduit, vous venez de le dire, à Péronne. Il s'agit du diocèse d'Amiens.
D'Amiens, en Picardie, donc une petite commune qui se trouve à peu près à une heure d'Amiens. Et donc c'est dans une aumônerie d'un collège public que Odile et Georges, un couple de catéchistes, ont proposé à des enfants, une dizaine d'enfants, en présence d'un jeune prêtre également, de créer ce visage pendant une montée vers Pâques.
En 1982.
82, voilà, en 1982. Moi, je l'ai découverte un petit peu plus tard, 3 ans après. Et donc, ils ont fait ce visage au long de 5 séances de catéchisme. Et ils ont terminé un petit peu dans la maison d'Odile et Georges parce qu'ils étaient un petit peu en retard et que ça demande quand même beaucoup de travail. Et ils ont offert ce visage sur leur carton le jour de Pâques au prêtre qui s'appelait Pierre Perdu, qui l'a reçu et qui a été très touché par la beauté de ce visage et qui s'est dit « mais il faut le faire connaître ». Parce que les catéchistes, eux, n'avaient pas du tout prévu que ce visage pourrait rayonner autant. C'était un travail à faire avec ses enfants pour creuser pas mal de questions catéchétiques dont je parle dans le livre.
Alors justement, ces questions catéchétiques qu'ils ont voulu creuser, qu'est-ce qu'ils vous en ont dit des années et des années après? Qu'est-ce qui a motivé ce travail?
Leur désir, c'était que les enfants puissent avoir une expérience dans leur cœur, dans leur corps, dans leurs intelligences, une expérience de la rencontre avec Jésus-Christ. Et ils se sont dit qu'en passant par ce travail de découpage, en collant des photos, ben on pouvait expérimenter comment on devient corps du Christ tous ensemble, comment chacun, tout le monde a sa place, que le Seigneur est venu pour tout le monde, qu'on ne choisit pas, celui qui est sauvé. Le Seigneur est venu sauver tous les hommes de la terre. Et il y a plusieurs messages au cours des 5 semaines qui ont été déclinés. Ou alors, on reconnaît le Seigneur que parce que on le connaît, parce que quelqu'un nous en a parlé avant, parce qu'il y a des enfants qui ont regardé ce visage, des enfants du collège qui n'étaient pas au catéchisme et qui ont dit « Oh, c'est un homme barbu, un hippie ». Enfin, bien sûr, ils n'ont pas reconnu Jésus-Christ.
Mais ils ont bien vu qu'il était réalisé avec tout un tas de visages.
Ils ont vu ce visage, parce que quand on prend du recul, on le voit. Alors c'est aussi le recul, la relecture. Quand on est devant ce visage, alors l'original est encore plus saisissant, on ne voit pas Jésus, on voit plein de visages et on ne comprend pas. Et en prenant du recul, on prend conscience de sa présence et de ce visage, ce beau visage qui apparaît, qui se révèle. Et pour moi, c'est une expérience spirituelle. C'est-à-dire que c'est dans la relecture que l'on découvre que le Seigneur était là dans nos vies. En prenant du recul, en prenant un temps de prière, on se dit « mais le Seigneur était là et je ne le savais pas où ». Et on a besoin de prendre du recul parce que le Seigneur est discret dans nos chemins de vie. Sa présence se révèle dans la rencontre de l'autre, mais par des petites touches, par des moments de paix, de joie.
Pour finir sur l'histoire de cette image, de cette icône, elle a été ensuite largement diffusée parce qu'elle a, comme je le disais, dépassé ceux qui l'ont réalisée. Ces artistes, parce qu'il s'agit vraiment de quelque chose d'assez étonnant. Il faut un sacré sens esthétique pour réaliser ça, en jouant sur les couleurs, les noirs, le noir des cheveux en général. Et ça leur a échappé.
Complètement. D'ailleurs, ils en parlent avec beaucoup d'humour, que Odile et Georges disent souvent « Oh, mais ce visage, il n'en fait qu'à sa tête ». C'est-à-dire, effectivement, il a échappé. Des enfants ont voulu le faire connaître autour d'eux. Très vite, des gens ont été touchés, ils ont fait des photocopies. Et puis, ça a été pour le Tchad, pour un pays d'Afrique. Et le prêtre, Pierre Perdu, s'est dit, mais il faut le faire connaître. Et il s'est débrouillé, alors je le raconte dans le livre, pour trouver un système de manière à faire ses petits marque-pages gratuitement en couleurs de belle qualité. Il en a fait des milliers et des milliers. Avec l'aide d'une imprimerie. Et du coup, grâce à ce petit visage, il s'est répandu. Il est arrivé dans les mains de Mediaspol. Ils ont fait un poster. Alors, ils ont un peu recoupé, ils ont recolorié un peu. Bon, ils ont retravaillé très légèrement. Mais grâce à ce poster, ce visage a été connu même jusqu'au Japon, en Allemagne, enfin dans plein de pays du monde. Et maintenant, sur Internet, moi, je n'ai pas vu, bien sûr, tous les sites, mais je pense qu'il est largement répandu. 32 ans après, et ça, ils n'ont pas du tout prévu ça, pas du tout.
Qu'est-ce que ça dit d'après vous, ça? Que
ça est de l'esprit. Le vent souffle où il veut, c'est comme ça que j'ai intitulé la première partie. Moi-même, j'ai été accompagnée dans mon enquête, parce que c'était pas évident. J'ai pas été sur les réseaux sociaux pour retrouver des enfants. J'ai fait à ma façon, un peu, avec le téléphone, un peu Internet, et j'ai retrouvé des gens. Et puis aussi, au long de l'enquête, j'ai découvert que ce visage était toujours fécond aujourd'hui. Toujours utilisé dans des paroisses, notamment là, à Nantes où j'étais, mais bien ailleurs aussi. Et moi-même, j'ai été dépassée. Pour moi, c'est le travail de l'Esprit Saint qui s'exprime là.
RCF, Véronique Alzieux. Thank you.
Blandine Dairon, c'est quand même étonnant, un dieu qui se révèle évidemment dans les Écritures, qui s'incarne, mais aussi qui se donne à connaître à travers un objet finalement comme celui-là, réalisé par des enfants, par des catéchistes absolument inconnus, qui dépasse tout le monde et qui mène sa propre vie, vous le disiez, en reprenant les propos de Odile, hein, la personne qui entre autres a réalisé cette icône, n'en fait qu'à sa tête. Qu'est-ce que ça vous inspire au sujet de Dieu ?
Un Dieu qui nous surprend. Un Dieu qui a beaucoup de délicatesse et d'humanité dans son désir de vouloir nous rencontrer en douceur. Pour moi en tout cas, c'est mon expérience. C'est un Dieu qui est doux et humble et qui est très discret parce que ce visage, il est étonnant quand on le voit de loin. Je ne sais pas, mais quand on le voit, moi je suis très touchée par cette espèce de présence forte mais douce. Souvent, je parle de la douce force de ce visage de Péronne. Je l'ai appelé le visage de Péronne parce qu'il a été créé à Péronne. Au fond, il n'a même pas de nom parce qu'il a été appelé le Christ aux mille visages, le Christ aux yeux fermés, il a plusieurs noms. Et cela me parle d'un Dieu qui m'apprend à le rencontrer à travers la rencontre des autres. Alors, on peut le rencontrer dans la création, on peut le rencontrer dans bien sûr, l'écriture, les sacrements, la prière. Voilà. Mais là, j'ai voulu focaliser plus sur la rencontre de l'autre. Tu as vu ton frère, tu as vu ton Dieu, dit Clément d'Alexandrie, un père de l'Église. Et c'est cette idée-là que j'ai découverte.
Alors, quand vous posiez la question tout à l'heure, est-ce que c'est juste de réaliser le visage du Christ avec des centaines de visages d'anonymes, de célébrités? On voit Patrick Devers, on voit le pape Jean-Paul II, on voit Salma Hayek, une comédienne. Est-ce que c'est juste?
Oui, c'est juste. J'ai découvert que c'était juste. Alors, j'en ai parlé avec des théologiens, avec une philosophe, avec des prêtres, avec des pères jésuites. J'ai lu, j'ai creusé, j'ai écrit vraiment en réfléchissant beaucoup, en discutant avec d'autres pour essayer de ne pas écrire d'erreurs, de ne pas inventer un Christ. Mais le Seigneur est venu pour toute personne, qu'elle soit connue, inconnue, malade, en pleine forme. Et ce qu'il me dit aussi, ce visage, c'est... J'en parle dans le livre, chaque fois que vous l'avez fait à l'un des plus petits d'entre mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Donc l'autre est vraiment, l'autre le plus petit notamment, celui qui est le plus
vulnérable.
Que le Seigneur nous appelle à aimer en priorité, mais nous sommes aussi petits chacun, nous avons chacun notre fragilité. Parce que découvrir des personnes de l'arche, par exemple pour moi, qui ont une déficience mentale et qui sont d'une certaine façon le plus petit... Mais c'est aussi découvrir des personnes extraordinaires, des trésors de relations, des personnes qui m'apprennent à accueillir ma propre fragilité ou à aimer, à être là avec elles.
Est-ce que ça dit aussi quelque chose de l'Église ? C'est-à-dire qu'individuellement, aucun de ces visages ne représente le visage du Christ. Ça n'est que assemblés les uns avec les autres que le visage du Christ se dessine.
Alors bien sûr, il y a aussi la notion de relation entre les gens et le fait d'être ensemble. Vous êtes le corps du Christ, chacun pour sa part, et nous formons ensemble le corps du Christ. Nous sommes une communauté et le Seigneur, lorsqu'il appelle les apôtres à aller dans le monde entier, faites des disciples, c'est aussi un appel à vivre de cet amour les uns pour les autres. Aimez-vous les uns les autres, ou c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que l'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Donc bien sûr, la relation à l'autre, le fait d'apprendre à aimer l'autre, nous permet... de passer de l'image à la ressemblance, c'est un petit peu ce que je dis à un moment, ce que je reprends les paroles d'Étienne Grieux.
Qui a préfacé
jésuite,
le livre.
Voilà, oui, qui a préfacé le livre et puis qui m'a accompagnée aussi dans la réflexion, l'écriture. Notamment, voilà, ce passage est important lorsqu'il dit « on passe de l'image à la ressemblance en s'aimant les uns les autres, en apprenant à être en relation les uns avec les autres ».
Mais qu'est-ce que c'est la ressemblance ? C'est pas une ressemblance physique ?
Non, c'est une ressemblance dans la capacité à accueillir l'autre de manière inconditionnelle, comme Jésus a pu accueillir toute personne sur son chemin. C'est la ressemblance dans l'amour, d'apprendre à aimer, d'être en relation. Enfin, pour moi, c'est ça, c'est ce que je comprends.
Mais Cet assemblage de visages, il en dit aussi long sur nos vies, c'est-à-dire que certains sont les uns à côté des autres, ils se connaissent certainement pas, peut-être qu'ils s'entendraient pas du tout. Il y a un écart de génération, un écart de beauté physique, il y a des beaux, il y a des moins beaux, il y a des jeunes, il y a des moins jeunes. Ça, c'est notre vie. On est confrontés et on passe notre temps à rencontrer des gens qui sont sur notre route sans qu'on l'ait voulu.
Et puis aussi, la relation n'est pas toujours simple. C'est-à-dire le pardon, c'est un chemin. Hein. C'est aussi ce que j'ai écrit. C'est vraiment un chemin d'apprendre à aimer. Apprendre à aimer, c'est aussi apprendre à pardonner. C'est apprendre à s'accueillir comme nous sommes chacun, différents, chacun fragile, chacun avec ses limites. Et voilà, ça peut prendre du temps d'accueillir son voisin. Ça peut être dans sa famille proche ou des gens de son travail. Enfin, ou même dans une communauté comme l'Arche, il y a aussi des moments de tension. La communauté du pardon et de la fête, dit Jean Vanier. Donc effectivement, il y a aussi ce temps de pardon nécessaire. Ce que je veux dire aussi dans ce visage du Christ, c'est ne pas oublier la passion, la souffrance, tout ce qui est vécu dans nos vies de douloureux, de limité. Il y a des personnes qui ont été visage du Christ pour moi, dont je parle dans le livre, qui sont décédées, qui ont été très malades. Et le Seigneur nous accompagne là. Ce visage aussi, quand vous posez la question, ce visage, c'est aussi un visage qui se fait proche de notre humanité, dans tout ce qu'elle a de joyeux, mais aussi de douloureux. Pour moi, c'est très important. Il y a quelque chose qui me parle fortement de l'incarnation dans ce visage qui a été créé en 82.
Une certaine gravité qui s'en dégage.
Oui, il peut être très paisible, vraiment. Je pense que quand on a le cœur paisible et joyeux, on est quelqu'un de l'Arche, un jeune homme de l'Arche, accueilli à l'Arche, m'a dit « Oh, je le vois sourire ». Mais quelqu'un qui est en souffrance, moi j'ai eu des moments de souffrance, ce visage m'a vraiment accompagnée. Parce que dans la souffrance aussi, on peut se sentir accompagné par ce petit collage très modeste, mais qui peut aussi nourrir et habiter notre douleur.
Qu'est-ce que ça dit de l'incarnation ?
Quelle question ! Je suis un peu toute petite pour répondre à cette question.
À vous, qu'est-ce que ça vous dit de l'incarnation ? Qu'est-ce que ça vous évoque de ce Dieu qui s'est fait chair ?
Ça m'émeut énormément de me dire que je suis aimable, que comme être humain, dans mon corps, dans mon cœur, dans ma psychologie, tout en moi est aimable. C'est pas si facile de l'accepter vraiment, de s'accueillir soi-même complètement et de se dire que l'être humain, dans un psaume, il est écrit « À peine moindre qu'un Dieu, tu le fis ». On est quand même une personne, chaque personne est digne et aimée infiniment. Et chaque personne est une histoire sacrée, on dit aussi. Pour moi, c'est beaucoup d'émotions, mais bon, je ne veux pas non plus rester que dans l'émotion. Hein, laisser un peu tomber dans le cœur et rendre grâce pour ça.
C'est quand même incroyable, cette petite image-là. Vous l'avez en petit format sous les yeux, le fameux marque-page de 85 qu'on vous a remis par hasard. Ça vous a vraiment accompagné sur un chemin spirituel et ça vous a vu... C'est une forme de catéchèse. L'objectif recherché par les créateurs est atteint.
Complètement. Oui, moi, j'étais un peu plus âgée. Hein. J'étais, je sais pas, 19 ans. J'ai été accompagnée et je pense que ce visage, de manière extrêmement discrète, parce que j'ai prié devant, mais sans poser de questions, et m'a façonnée. Alors bien sûr, j'ai rencontré beaucoup de gens m'ont façonnée. Des lectures, des temps de prière, des retraites, vie chrétienne. Alors l'Arche, ça a été une sacrée révolution d'aller à la rencontre des personnes avec handicap mental. Je découvrais et j'étais très touchée par les premières rencontres. Donc ça fait que 8 ans, hein, mais...
Il y a une espèce de cohérence.
Il y a quelque chose qui... Oui, comme un fil rouge, mais je ne savais pas tout ça. Le Seigneur était là et je ne savais pas.
Un très grand merci, Blandine Dairon, d'être
merci de votre accueil.
Venue nous présenter ce livre, « Ils m'ont révélé ton visage », qui est un livre paru chez Salvator, dans lequel vous racontez, en quelque sorte, l'épopée de cette icône, et puis l'aventure intérieure qu'elle a suscitée aussi pour vous, à travers tous les moments dont vous avez parlé. Dans ce livre, vous retracez l'enquête qui vous a mené jusqu'à ceux qui ont fabriquer de leurs mains et de leurs petites mains parfois cette icône que les auditeurs d'RCF évidemment peuvent retrouver sur notre site pour pouvoir la contempler à leur tour. Merci à vous.
Merci beaucoup.